Chapitre 2 Verset 1 Citation de l'Écriture. Ensuite, au bout de 14 ans, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, prenant aussi Tite avec moi. Fin de citation. 14 ans plus tard, l'apôtre visita de nouveau Jérusalem, accompagné de Barnabas et de Tite. On trouve en acte 15 davantage de détails sur cette visite, qui eut justement lieu à cause de l'enseignement judaïsant introduit par de faux frères furtivement introduits qui troublaient les assemblées de Galatie. Paul et Barnabas avaient résisté à ces faux enseignements à Antioche, mais dans sa sagesse, Dieu voulait que cette question soit soulevée et réglée à Jérusalem, et il n'a pas permis que la question soit réglée par la position prise à Antioche, aussi bonne qu'elle fût. Si la question avait été réglée à Antioche, il aurait pu y avoir une division dans l'Église. D'un côté, une section composée principalement de juifs convertis s'attachant à la loi, avec Jérusalem pour centre, et d'un autre côté, une section composée de païens convertis affranchis de la loi, avec Antioche pour centre. Versets 2 et 3 Citation de l'Écriture. Or, j'y montais selon une révélation, et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les nations, mais, dans le particulier, à ceux qui étaient considérés, de peur qu'en quelque manière je ne courusse ou n'eusse couru en vain. Cependant, même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut pas contraint à être circoncis. Fin de citation. Le livre des Actes nous apprend que les frères d'Antioche décidèrent que Paul et Barnabas iraient à Jérusalem. Ici, nous apprenons le fait supplémentaire que l'apôtre y monta par révélation, une preuve supplémentaire que, bien qu'agissant en communion avec ses frères et selon leurs conseils, il était toutefois guidé par une révélation directe de Dieu. L'évangile étant en question, il communiqua ce qu'il avait prêché à ceux de Jérusalem pour lesquels les gens avaient de la considération. Ce n'est pas lui qui reçut d'eux l'évangile qu'il prêchait, mais au contraire, c'est lui qui le leur communiqua. Il ne le fit pas pour que des conducteurs de Jérusalem jugent si son évangile était selon Dieu, mais pour s'opposer à cette montée de légalisme qui menaçait de gâcher son œuvre parmi les gentils, les nations, au point de rendre vains ses travaux. Dans une sorte de parenthèse, le cas de Tite est évoqué pour montrer que cet enseignement légal n'était pas accepté ni soutenu à Jérusalem, car bien que Tite fût grec, il ne fut pas obligé à être circoncis selon la loi. Versets 4 à 5 Citation de l'Écriture. Et cela à cause de faux frères furtivement introduits qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeurât avec vous. Fin de citation. Poursuivant son sujet, l'apôtre fait remonter cet enseignement légal aux faux frères furtivement introduits, dont le but était de placer les saints dans la servitude et de les attirer à eux. Chapitre 4, verset 17. L'apôtre ne leur avait pas cédé, non pas même un moment. Quand la vérité est en jeu, il ne voulait faire aucun compromis sous aucun prétexte de grâce et de prétendu amour. Dans d'autres passages, nous sommes exhortés à être soumis les uns aux autres. 1 Pierre 5, verset 5. Mais quand il s'agit de faux frères et que la vérité est en jeu, l'apôtre ne voulait pas céder par soumission, pas même un moment. Versets 6 à 10 Citation de l'Écriture. Or, de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quels qu'ils aient pu être, cela ne m'importe en rien. Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme. À moi, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien communiqué de plus. Mais au contraire, ayant vu que l'évangile de l'incirconcision m'a été confié, comme celui de la circoncision l'a été à Pierre, car celui qui a opéré en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a opéré en moi aussi envers les nations, et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions vers les nations, et eux vers la circoncision, voulant seulement que nous nous souvinssions des pauvres, ce qu'aussi je me suis appliqué à faire. » Fin de citation. En dehors de ses faux frères, il y avait dans l'assemblée ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose. Ils pouvaient à juste titre avoir une place prééminente en raison d'un don ou de leur spiritualité. Néanmoins, la considération dont ils faisaient l'objet publiquement ne leur donnait aucun poids pour l'apôtre quand la vérité était en jeu. Dieu ne fait pas exception de personne. L'importance que l'homme a devant ses semblables ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte n'est pas la personne, mais ce qu'il y a de Christ dans la personne. Paul pouvait honorer de telles personnes et les aimer comme frères, mais il n'ajoutait aucune autorité à ce que lui avait déjà reçu de Christ. Ses frères, qui tenaient une place prééminente, confirmèrent l'apôtre dans sa prédication aux nations. Ils reconnurent que la prédication aux nations avait été confiée à l'apôtre Paul, tandis que la prédication aux Juifs avait été confiée à Pierre, et ils reconnurent que Dieu, qui avait opéré si efficacement par Pierre, travaillait également puissamment par l'apôtre Paul envers les gentils, les nations. En outre, Jacques, Céphas et Jean, au lieu de conférer une grâce à Paul, discernèrent et reconnurent la grâce qui avait été donnée à l'apôtre. Le résultat fut que les conducteurs de l'assemblée à Jérusalem donnèrent à l'apôtre et à Barnabas la main d'association de communion et confirmèrent leur mission auprès des nations, tout en les exhortant à se souvenir des pauvres, chose que Paul était d'ailleurs toujours prêt à faire. Ainsi, l'apôtre montre que depuis des années, il avait travaillé parmi les gentils, les nations, Dieu opérant puissamment par lui, sans qu'il ait reçu aucune autorité ou mission de la part des autres apôtres, et qu'au temps voulu, ses travaux avaient été pleinement reconnus comme étant de Dieu par les autres apôtres à Jérusalem. Ces détails de l'œuvre de l'apôtre condamnaient entièrement les assemblées de Galatie qui se détournaient de l'apôtre et mettaient en question son apostolat. Ce faisant, non seulement elles se détournaient de l'apôtre, mais elles se rangeaient aussi en opposition aux colonnes de l'Église à Jérusalem qui refusaient cet enseignement légal au lieu même où il surgissait. En outre, le passage entier réfute la fausse doctrine de la succession apostolique et celle de la place de l'apôtre Pierre comme chef terrestre de l'Église. Personnellement, Pierre reconnaissait que la mission envers les gentils, les nations, n'était pas son service. Versets 11 à 14. Citation de l'Écriture. Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamné. Car avant que quelques-uns fussent venus d'auprès de Jacques, il mangeait avec ceux des nations. Mais quand cela furent venus, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné avec eux par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tous, « Si toi qui es Juif, tu vis comme les nations et non pas comme les Juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser ?» Fin de citation. L'apôtre termine cette partie de son épître en rappelant un autre incident qui montre clairement que même Pierre n'avait pas la moindre autorité sur Paul. Au contraire, une occasion avait surgi où Paul fut obligé de reprendre Pierre et de lui résister. Quand Pierre avait visité Antioche, où l'assemblée était principalement composée de croyants d'entre les nations, il avait montré qu'il était personnellement si complètement délivré des préjugés juifs qu'il était libre de manger avec ceux des nations. Cependant, lorsque certains croyants juifs vinrent de Jérusalem, où certains chrétiens insistaient encore sur la loi et ses cérémonies, Pierre s'était retiré et séparé des croyants d'entre les nations. La racine de la faute de Pierre, comme cela nous arrive souvent, était la vanité de la chair qui voulait être bien vue par les autres. Il craignait de perdre sa réputation auprès de ceux de la circoncision. Cette crainte le conduisit à dissimuler et à prendre un chemin tortueux. Il ne marchait plus droit selon la vérité de l'Évangile. Par son acte, il ignorait l'unité de l'Esprit, niait la vérité de l'Évangile et apportait la division parmi les saints. Sa position d'apôtre ne faisait qu'aggraver sa faute. Plus un homme est honoré, et dans ce cas c'était par un juste respect, plus grande est la pierre d'achoppement pour les autres en cas de manquement, a-t-on dit. C'est ce qui arriva dans ce cas où l'infidélité de Pierre eut pour effet que les croyants juifs d'Antioche dissimulèrent pareillement, et même Barnabas fut entraîné par leur dissimulation. Dans ces circonstances, Paul reconnut justement que l'enjeu était la vérité de Dieu, et il lui résista en face et le réprimanda publiquement devant tous. « Si, dit l'apôtre, toi qui es juif, tu vis comme les nations, et non pas comme les juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser ?» Versets 15 et 16. Citation de l'Écriture. « Nous qui, de nature, sommes juifs et non point pécheurs d'entre les nations, sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ, et non pas sur le principe des œuvres de loi. Parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. » Fin de citation. Ayant pleinement établi par ces détails historiques que son autorité ne dérivait pas de l'homme, et qu'il ne voulait faire aucun compromis quand la vérité était en jeu, l'apôtre se met à parler de l'Évangile qui était perverti par ses faux enseignements. Non seulement Pierre avait dissimulé en mangeant librement avec ceux des nations et se mêlant un temps avec eux, puis il avait cherché à cacher ce qu'il avait fait en se retirant et en se séparant d'eux, mais en tout cela, il avait mis l'Évangile en péril, car la portée de son acte détruisait la vérité de l'Évangile, comme le montre l'apôtre. La vérité était que ceux qui étaient juifs par nature, comme Pierre, Paul et les autres, avait découvert que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi ni autrement que par la foi en Jésus-Christ. Ayant appris cela, ils avaient cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés sur le principe de la foi en Christ et non par des œuvres de loi, car, dit l'apôtre, sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Or si, en cherchant à être justifié en Christ, nous-mêmes aussi nous avons été trouvés pécheurs, Christ est donc ministre de péché. Qu'ainsi n'advienne. Car si ces mêmes choses que j'ai renversées, je les réédifie, je me constitue transgresseur moi-même. Fin de citation. Pierre, avec d'autres croyants juifs, avait renoncé à la loi comme moyen de justification afin d'être justifié par Christ. Mais maintenant, en refusant de manger avec ceux des nations, il revenait aux ordonnances légales, les choses mêmes qu'il avait abandonnées. Si donc il avait eu raison d'abandonner la loi comme moyen de justification, il était manifestement dans l'erreur en y retournant. Or, c'était pour l'amour de Christ qu'il avait renoncé à la loi. Mais s'il avait raison de retourner à la loi, alors Christ l'avait conduit à mal faire en abandonnant la loi. Or, cela était impossible, car Christ ne peut pas conduire un homme à mal faire. Il n'est pas un ministre de péché. Il est donc évident que si nous retournons à la loi comme moyen de justification, nous réédifions les choses que nous avons renversées et nous nous constituons transgresseurs de la loi et coupables de l'avoir abandonnée. Verset 19. Citation de l'Écriture. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Fin de citation. Appliquant la vérité à lui-même, l'apôtre donne un beau résumé de la position chrétienne. L'Évangile proclame la justice de Dieu envers l'homme. La loi exige la justice de la part de l'homme et prononce la mort sur l'homme qui ne la garde pas. L'âme qui pêche, celle-là mourra. Ézéchiel 18, versets 4 et 20. Nous avons tous péché. Ni Paul ni personne d'autre n'a gardé la loi. Par conséquent, la loi ne peut que prononcer la sentence de mort et le jugement sur nous. Verset 20. Citation de l'Écriture. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Fin de citation. Pour celui qui croit en Jésus, cette sentence de mort a été exécutée dans la mort de Christ, notre substitut. Sa mort a été la mort de notre vieil homme, l'homme sous le jugement. Le croyant peut donc dire « Je suis crucifié avec Christ ». Étant ainsi passé par la mort, dans la mort de notre substitut, nous sommes affranchis de la loi. La loi peut condamner un homme à mort à cause de la vie qu'il a menée, mais dès lors que l'homme est mort, il ne vit plus dans la vie à laquelle la loi s'applique. La loi ne peut rien dire à un homme mort. En outre, si en tant que croyants nous sommes morts à la vie ancienne à laquelle la loi s'applique, nous avons une nouvelle vie en Christ. L'apôtre peut donc dire « Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ». Si je veux voir cette nouvelle vie dans toute sa perfection, je dois regarder à Christ. Comme quelqu'un l'a dit, quand je tourne mes yeux vers Jésus, quand je contemple toute son obéissance, sa pureté, sa grâce, sa tendresse, sa patience, son dévouement, sa sainteté, son amour, son absence totale d'égoïsme, je peux dire « Voilà ma vie ». Elle peut être obscurcie en moi, mais il n'en est pas moins vrai que c'est ma vie. Pensée de J.N. Darby. Ainsi, notre privilège est de nous tenir pour morts à la loi, afin que nous vivions cette nouvelle vie à Dieu. Une autre grande vérité est que cette nouvelle vie, comme toute vie dans la créature, a et doit avoir un objet pour la soutenir. Si le Seigneur Jésus est notre vie, il est aussi personnellement l'objet de la vie. L'apôtre ajoute donc « Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » La foi voit Christ, regarde à lui, se confie en lui, se nourrit de lui, demeure dans son amour, dans la conscience bénie qu'il est pour nous, dans toutes les profondeurs de l'amour qu'il a conduit à se donner lui-même pour nous. Verset 21. Citation de l'Écriture. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Fin de citation. Revenir à la loi est non seulement se constituer transgresseur et coupable de l'avoir abandonnée comme moyen de justification, mais c'est annuler la grâce de Dieu. Et, en outre, si la justice vient de la loi, il n'y avait pas besoin que Christ meure. Christ est donc mort pour rien.